Donc, le prêtre a le pouvoir de renouveler le sacrifice du Christ. Dans le fond, c'est cela. Il est le sacrificateur, de la même manière que dans l'Ancien Testament, seul le prêtre sacrificateur pouvait immoler la victime expiatoire par laquelle le pardon des péchés était acquis à Israël. De même manière, le prêtre est le seul qui peut offrir le sacrifice de la messe et qui peut faire en sorte que ce sacrifice soit renouvelé et qu'il soit efficace. Parce qu'il a reçu l'ordre. Et qu'est-ce que c'est l'ordre ? Ça veut dire qu'il a reçu l'imposition des mains par l'évêque. L'évêque est le dépositaire d'un pouvoir surnaturel qu'il a la possibilité de transmettre par l'imposition des mains. Et là, le catholicisme a repris le rite, le geste, si vous voulez, qu'on trouve si souvent dans le Nouveau Testament, de l'imposition des mains, qui, effectivement, indique la transmission de quelque chose, hein, pour ce que l'imposition des mains aux malades, la transmission d'une puissance de guérison, pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, la transmission, n'est-ce pas, du baptême, de la puissance de l'Esprit, etc. Seulement, ils ont détourné de leur objet, si vous voulez, ce geste. C'est vrai qu'il y a aussi, dans le Nouveau Testament, une imposition des mains pour le ministère, pour la mise à part. C'est pas ? Mais c'est, en quelque sorte, manifester, plutôt, je dirais, une reconnaissance de quelque chose qui a été reçu de Dieu. Car, dans le fond, le geste de l'imposition des mains, ce n'est pas quelque chose que l'homme a et qu'il transmet à l'autre. Hein ? C'est un contact de deux hommes entre eux, mais c'est aussi un contact avec Dieu. C'est Dieu qui donne. Quand on impose les mains aux malades, c'est pas celui qui impose les mains qui a la puissance de guérir. Il veut tout simplement être le canal par lequel Dieu agit envers le malade. De même manière, celui qui prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il ne baptise pas l'Esprit, c'est Jésus qui baptise l'Esprit. Mais il est le canal par lequel la puissance de l'Esprit se manifeste. Pour ce qui est de la mise à part pour le ministère, il en va de même. Celui qui prie ou ceux qui prient sont en quelque sorte les canaux par lesquels le Saint-Esprit va donner ses dons à celui qui est appelé, qui est mis à part pour le ministère. Maintenant, dans la théologie romaine, c'est vraiment un dépôt. L'évêque est le dépositaire d'une puissance qui, si j'ose dire, est indépendante de l'action de Dieu, de la direction de Dieu, mais dont il est en quelque sorte le maître, dont il est le propriétaire, et qu'il donne à qui il veut. Et d'où lui-même l'évêque tient-il ce dépôt ? Eh bien de l'autre évêque qui l'a ordonné. Et d'où vient le dépôt du premier évêque ? Eh bien des évêques, jusqu'aux apôtres. D'où la notion de succession apostolique. Donc cette notion d'apostolicité dont nous avons parlé, l'Église universelle, apostolique et romaine. Dans ce sens qu'il y aurait une chaîne ininterrompue, les apôtres ayant reçu du Christ le pouvoir de transformer le pain et le vin de la scène dans le corps et le sang du Seigneur, par l'imposition des mains aux évêques, leurs successeurs, ils ont transmis cette possibilité aux évêques qui l'ont transmis à leurs successeurs, qui eux-mêmes l'ont transmis à leurs successeurs, etc., etc. Donc il faut obligatoirement avoir été ordonné par un évêque qui lui-même est au bénéfice de cette succession apostolique pour que le miracle, entre guillemets, de l'Eucharistie puisse s'accomplir et qu'il puisse y avoir Église. Car l'Église, dans la tradition catholique, c'est là où les sacrements sont célébrés. Et pour que les sacrements soient célébrés, il faut qu'il y ait le prêtre. Seul le prêtre, qui est au bénéfice de la tradition apostolique, peut célébrer les sacrements, peut manifester les sacrements. Donc, si vous voulez, l'Église n'est plus le lieu où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, mais l'endroit où il y a un prêtre au bénéfice de la succession apostolique. Quand bien même vous auriez dans un certain lieu 10 000 croyants, dont aucun ne serait prêtre, vous n'avez pas d'église dans ce lieu. crois qu'il faut bien comprendre ça. Alors, cette notion de prêtrise permet en quelque sorte à l'Église d'avoir son pouvoir, car si elle est la maîtresse de l'ordination, elle peut accorder cet ordre à qui elle veut ou non. Et c'est un pouvoir terrible, c'est un pouvoir extraordinaire, hein, sur le plan temporel. Et c'est en fait tout le pouvoir de l'Église catholique qui est là. Alors, pour être prêtre, en fait, c'est pas une question d'avoir une formation de prêtre ou autre, il suffit d'avoir été ordonné, il suffit d'avoir reçu l'imposition des mains de l'évêque. C'est l'évêque qui seul a la possibilité d'ordonner les prêtres. En dehors de cela, vous avez des ordres mineurs, par exemple les diacres. En fait, c'est le premier... Oui, c'est la première... le premier pas de celui qui se destine à la prêtrise, il est d'abord ordonné diacre, et puis ensuite il est ordonné prêtre. Alors, il y a dans la vision hiérarchique de l'Église catholique, ça nous amène à toucher justement à la hiérarchie, il y a tout un système. Maintenant, il faudrait dire un mot encore sur la notion de prêtrise dans l'Église catholique. L'Église catholique prétend que cette institution de la prêtrise remonte au Christ lui-même, et ils font grand cas du texte de l'Épître aux Hébreux, où le psaume 110 est cité, vous savez, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. Par exemple, au moment où un prêtre est ordonné par l'évêque, on va citer ce texte. Tu es prêtre, non pas, c'est pas quelque chose qui s'adresse à Christ, hein. Tu es toi, le Seigneur, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek, mais toi, X ou Y, un tel, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. Et, en quelque sorte, dans la tradition catholique, le Christ, promu au rang de prêtre par sa mort et par sa résurrection, partage sa fonction sacerdotale avec les prêtres qui sont mis à part. Maintenant, il est vrai qu'il y a dans le Nouveau Testament une dimension sacerdotale du peuple de Dieu. Il a fait de nous, dira le livre de l'Apocalypse, un peuple de sacrificateurs, de prêtres, si vous le voulez, et ils régneront avec leur Dieu au siècle des siècles, c'est ce texte. Mais alors là, c'est tout le peuple de Dieu qui a une fonction sacerdotale. Tous les rachetés, tous les enfants de Dieu, tous les vainqueurs qui ont une fonction sacerdotale. Tandis que l'Église catholique met vraiment à part un certain nombre de gens et exclut de la prêtrise tout un ensemble d'autres. Même si aujourd'hui il y a une espèce de récupération et sous l'emprise, par exemple, de... à la suite de la confrontation dans le dialogue œcuménique avec le protestantisme, on rappelle volontiers au milieu catholique que tout le peuple de Dieu est un peuple de prêtres. Mais il n'en demeure pas moins que dans ce peuple de prêtres, certains sont plus prêtres que d'autres, si vous voulez. Et toute la notion du ministère dans l'Église catholique tourne autour de la prêtrise. C'est donc pas un élément charismatique, comme par exemple dans le Nouveau Testament, où le ministère c'est une action du Seigneur, une mise à part du Seigneur, mais c'est vraiment une fonction sacerdotale à l'image de ce qui était dans l'Ancien Testament et à l'image de ce que, justement, l'Épître aux Hébreux affirme comme étant aboli par le sacrifice de Christ. Alors, il est curieux de voir que, justement, la théologie catholique se base sur l'Épître aux Hébreux pour établir la notion de prêtrise, alors que, précisément, toute l'Épître aux Hébreux est là pour montrer que la prêtrise telle qu'elle était conçue et telle qu'elle était vécue dans l'Ancien Testament est abolie maintenant par la prêtrise unique, parfaite et totale et intransmissible du Christ vivant, qui demeure pour l'éternité. Donc il n'y a pas besoin d'une transmission apostolique puisque le Christ est vivant et il reste prêtre pour l'éternité. Il reste notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre. Il n'y a besoin de nul autre. Et si le peuple de Dieu a une fonction sacerdotale, c'est par rapport au monde. En sorte que le peuple de Dieu dans son ensemble est un peuple d'intercesseurs qui prie. Et le monde païen, le monde incroyant est au bénéfice du peuple de Dieu qui prie pour lui, qui est comme aurait dû l'être les 10 juges qui étaient à Sodome, et qui font que, d'une certaine manière, la colère de Dieu ne les atteint pas comme elle devrait les atteindre s'il n'y avait pas cette fonction sacerdotale du peuple de Dieu. Alors on voit ici qu'il y a une distorsion totale de la notion biblique de la prêtrise du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la théologie catholique. D'autre part, il nous faut signaler ceci, c'est que cette pensée que le sacrifice du Christ puisse être renouvelé est une abomination. Car encore une fois, l'Épître aux Hébreux nous montre que ce sacrifice, il est unique, il est parfait, il est total. Il n'est pas renouvelable. S'il est renouvelable, c'est qu'il n'est pas parfait. C'est exactement la démonstration que fait l'Épître aux Hébreux. Il dit, voilà, les sacrifices de l'Ancien Testament avaient besoin d'être renouvelés. Il fallait que tous les ans, le grand prêtre entre dans le lieu très saint avec le sang du bouc expiatoire. Qu'est-ce que ça prouve, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Ça prouve que ce sacrifice ne pouvait pas enlever les péchés puisqu'il fallait tous les ans le renouveler. Donc, si on renouvelle le sacrifice du Christ aujourd'hui, ça veut dire que ce sacrifice n'est pas parfait. Ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment lavés par le sang de Jésus. Alors, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de grave. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, en tant que chrétiens évangéliques, nous refusons systématiquement de participer à l'Eucharistie catholique. Il y a dans les milieux protestants et évangéliques un certain nombre de controverses à ce sujet-là. Un certain nombre de gens se sentent libres de participer, dans certaines conditions, à une Eucharistie catholique. Seulement, si vous participez à une Eucharistie catholique, vous entrez dans la démarche catholique. C'est-à-dire que vous admettez qu'il puisse y avoir un renouvellement du sacrifice du Christ, et par conséquent, que son sacrifice n'est pas unique, n'est pas parfait, n'est pas total. C'est une remise en cause, en quelque sorte, inconsciente, je peux le croire, pour ceux qui participent à cette Eucharistie catholique, mais qui n'en est pas moins réelle, c'est une remise en question de la valeur du sacrifice du Christ. On touche donc à quelque chose de vital, on touche à quelque chose d'essentiel. Alors ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire pour expliquer justement cette non-participation à l'Eucharistie catholique. Alors maintenant, ceci étant posé, ça, on pourra en discuter après, je vois Philippe là, qui frétille sur sa chaise, mais et je préfère terminer, on pourra discuter après, tu peux noter tes questions si tu veux. Oui, alors il y a dans la théologie catholique, maintenant, à partir de cette notion de prêtrise, il y a la notion de la hiérarchie. Le prêtre, c'est donc ce qui distingue le clergé des laïcs, l'ordre de la prêtrise. Mais au sein même de la prêtrise, il y a toute une hiérarchie. Et cette hiérarchie, elle se veut en quelque sorte l'héritière de la hiérarchie spirituelle qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, vous avez une hiérarchie qu'on peut, grosso modo, schématiser ici. Et d'ailleurs, là, la vision catholique, l'analyse de la hiérarchie spirituelle du Nouveau Testament est tout à fait bonne. Vous avez des ministères de l'Église. Dont le plus représentatif, et le seul représentatif finalement pour l'Église catholique, c'est le ministère d'apôtre. Bon. Quand les catholiques parlent d'apôtre, ça veut dire les douze. Ils ne conçoivent pas qu'il y ait encore des apôtres aujourd'hui, et qu'en dehors des douze, il y ait des apôtres. Déjà à l'époque du Nouveau Testament. Bon. Ensuite, vous avez les ministères d'anciens. Et puis enfin, vous avez les ministères de diacres. Voilà comment la théologie catholique voit la hiérarchie dans le Nouveau Testament. Bon. Les apôtres, ils sont morts. Leur sacerdoce est unique. J'emploie à dessein le mot sacerdoce. Mais ils ont des successeurs. Et les successeurs, ce sont les évêques.
aujourd'hui, les apôtres remplissent les fonctions, pardon, les évêques remplissent les fonctions des apôtres. C'est donc à eux que revient le gouvernement de l'Église. Maintenant, les apôtres, pour les aider dans leurs tâches, au niveau des églises locales, ils avaient des anciens. Les anciens, ce sont les prêtres. Qui sont les auxiliaires de l'évêque sur le plan des églises locales. Et puis enfin, vous avez un ministère qui est intermédiaire, si j'ose dire, entre la prêtrise, enfin disons l'ordre et puis le rang des laïcs, c'est le ministère du diacre que le catholicisme a encore aujourd'hui. En fait, qui était plus ou moins confondu jusqu'à ces derniers temps avec la prêtrise, mais qu'ils sont en train de ressortir. Les laïcs, maintenant, sont hors de l'Église. Il y avait des laïcs mariés depuis un certain temps, depuis le Concile Vatican II. Alors, vous voyez, voilà, ça c'est la structure de base. Hein? Évêque, prêtre, diacre. Alors, l'évêque est responsable d'un diocèse, c'est-à-dire d'un certain territoire où il est le maître, en quelque sorte. Il a un pouvoir absolu, si je vous dis, dans ce domaine-là. Le prêtre est sous la juridiction de l'évêque. Il correspond à l'ancien, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et il a une fonction dans l'église locale. Puis le diacre, c'est ces deux branches et deux grands ministères. Alors, ensuite, vous avez à partir de cette structure de base, et ça, il faut bien l'avoir dans la tête, parce que c'est ça, hein, il ne faut pas se perdre les histoires de chanoines, d'archevêques, de cardinaux, de papes, etc. Ça, c'est la structure de base. Le reste, ce sont des compléments, si j'ose dire, de cette hiérarchie de base. Vous pouvez avoir... Alors, vous avez les diocèses, qui représentent l'Église dans son implantation. Et puis alors, disent les catholiques, il y a un ministère, parmi les évêques, qui est un ministère d'unité, qui manifeste l'unité de l'Église. C'est le ministère du pape. Ça, évidemment, c'est un point fondamental aussi. Comment ? Eh bien, il descend du collège des évêques, des apôtres. Dans le collège des apôtres, disent les catholiques, il y avait un des apôtres qui avait un ministère particulier, une primauté, comme ils le disent, c'était Pierre. Il y a toute une théologie sur la primauté de Pierre dans l'Église catholique. Pierre apparaît comme celui qui est la pierre sur laquelle l'édifice de l'Église repose. Et au moment de l'intronisation d'un pape nouveau, il y a cette affirmation, « Tu es Petrus, tu es Pierre ». Vous savez, le fameux texte de Jésus à Pierre, au moment de la confession de César et de Philippe. D'autre part... Oui, ah oui. Je ne savais pas.
Je peux pas parler.
Ah bon,
est...
ah bon, d'accord. Bon, fermons la parenthèse. Toujours est-il que le pape apparaît comme le successeur de Pierre. Il apparaît comme celui qui a la primauté sur tous les autres évêques. Alors, si vous voulez, on peut maintenant territorialement revoir la hiérarchie catholique. La juridiction du pape... Attendez, je vais effacer ça. Hein. Voilà. La juridiction du pape, c'est le monde. Voilà. Il a un ministère universel. Tous les autres évêques, et ça, vous avez ça depuis Vatican II, Vatican I, en 1870, ça n'a pas toujours été le cas dans l'Église catholique. Mais depuis 1870, Il a un pouvoir total et absolu sur les évêques. Et là, on trouvera le dogme de l'infaillibilité pontificale qui viendra. L'évêque a une juridiction, diocésienne, hein, c'est le diocèse. Le prêtre, c'est la paroisse. Il y a deux R à paroisse ou non ?
Non, un R et deux R.
Le diacre, c'est le soufisme, je crois.
Il n'y a pas de territoire.
Alors voilà, en gros. Maintenant, vous pouvez avoir, à partir de cette structure-là, un certain nombre de regroupements, si vous voulez. Au niveau des évêques, vous avez des archevêchés et des archevêques. C'est-à-dire que dans plusieurs diocèses qui sont sur un même territoire, vous avez un des évêques qui a la primauté sur les autres, et qui, dans le collège de ces évêques-là, est le primus inter pares. Par exemple, ici, pour ce qui est de la Bretagne, vous avez des diocèses, vous avez des évêchés, donc à peu près, vous avez un évêché à Vannes, vous avez un évêché à Quimper, vous en avez un Saint-Brieuc, et puis vous avez à Rennes un archevêché. C'est-à-dire que l'évêque de Rennes, qui a rang d'archevêque, est le chef, si vous voulez, de toute la Bretagne. Au point de vue catholique. Ensuite, vous avez la même chose au point de vue des paroisses. Dans plusieurs paroisses au sein d'un même évêché, vous avez un curé doyen qui se trouve être en quelque sorte le primus inter pares de tous les prêtres du coin. Maintenant, vous avez une autre structure hiérarchique qui, alors, elle est une structure honorifique. Il ne faut pas mélanger les choses. Et c'est en particulier pour ce qui est des... Alors là, c'est très compliqué. Alors là, vous avez tout un ensemble de choses. Mais en gros, vous avez les cardinaux. Le cardinal, c'est un évêque comme un autre. Ou un archevêque. Le chapeau de cardinal, puisque la marque distinctive du cardinal, c'est un chapeau particulier... ça indique simplement une distinction qui lui est accordée par le pape. Seulement, cette distinction n'est pas simplement anodine, parce qu'elle lui permet de devenir un des électeurs du pape. Seuls les évêques ayant rang de cardinal, à la mort du pape, se réunissent en conclave à Rome pour avoir le droit d'élire le successeur du pape défunt. D'être candidat aussi, éventuellement, absolument, oui. C'est parmi les cardinaux, voilà, c'est parmi les cardinaux que l'on choisit le pape qui est... Maintenant, le titre de cardinal est maintenant, je veux dire, pratiquement de nos jours, accordé quasiment uniquement à des évêques. Il fut une époque, par exemple au Moyen-Âge, où ce n'était pas obligatoire d'être évêque pour pouvoir être cardinal. Un simple prêtre, par exemple, pouvait être cardinal. Et même un laïc, par exemple le cardinal de Mazarin, était, si je ne m'abuse, un laïc. Il n'était pas ordonné prêtre. Ça ne se concevrait plus aujourd'hui. Mais théoriquement, ça reste possible. Vous et moi, nous pouvons devenir cardinaux, éventuellement. Passons sur les conditions, mais théoriquement, c'est possible. Alors, ensuite, vous avez des distinctions autres. Au niveau du clergé régulier, c'est-à-dire du clergé dans les monastères. Dans ce sens que les monastères, et les grands monastères en particulier, sont considérés comme équivalents à des diocèses. Et c'est ainsi que dans un monastère, les monastères, n'importe comment, jouissent de l'extraterritorialité. Dans ce sens que un monastère qui est situé sur le territoire, mettons par exemple du diocèse de Vannes, n'est pas soumis à l'évêque de Vannes. Il est autonome et il est comme l'évêque, si vous voulez, il est responsable uniquement en face du pape. Et le chef du monastère, qui est un abbé,
prêtre abbé, père abbé, frère abbé, hein, ne pas confondre avec le titre qu'on donne au prêtre de base, si j'ose dire, monsieur l'abbé, ça a rien à voir. Le père abbé d'un monastère, c'est un personnage très important dans l'Église catholique, il a rang d'évêque. Il est équivalent à l'évêque. Hein. Ensuite, vous avez d'autres distinctions plus honorifiques, les chanoines, par exemple. Ça, c'est rien du tout, c'est simplement une distinction purement honorifique. Hein. Vous avez ensuite des distinctions chevaliers, de sacerdoce, etc. Ça dépend des ordres catholiques, etc. Bon, ben ça, c'est tout à fait secondaire et en même temps extrêmement complexe.
Et là, moi, je vais parler pratique, là, quand on se trouve en face de tous ces gens-là, comment on doit réagir, nous, en tant que chrétiens évangéliques, quel titre on veut leur donner, c'est vraiment,
ouais.
En étant correct, si vous voulez, et en même temps, en ne traitant pas la vision
ouais.
Biblique.
Alors, le titre officiel qui est réservé au pape, c'est sa sainteté, votre sainteté. Les cardinaux, on leur donne du éminence. Les archevêques et les évêques, monseigneur. Les prêtres, mon père ou l'abbé, c'est pas l'abbé un tel. Les diacres, c'est le cinquième mot de la charrette toujours. Mais en tant que chrétiens évangéliques. Bien entendu, il y a des textes bibliques qui nous interdisent formellement de donner de semblables titres. La Bible nous dit n'appelez personne mon père, car vous avez un seul père Dieu. N'appelez personne mon maître ou mon seigneur, n'est-ce pas? Vous avez un seul maître et un seul seigneur, celui qui est dans les cieux, etc.
Monsieur, est-ce qu'on peut dire ma soeur?
Ah bah oui. Ma soeur, pourquoi pas? Mon frère, pourquoi pas, éventuellement. À ma mère, non. Ah non, pas ma mère. Disons, dans le sens de...
Non, il n'y a rien de bibliquement interdit, mais moi, je
vais vraiment donner un petit peu. Je leur dis, madame, c'est un peu embêtant.
Non, non,
mademoiselle, madame.
Ouais.
Alors, pour les curés, monsieur l'abbé, hein, ou je me permettrai éventuellement de dire le père un tel, sans reprendre à mon compte mon père, dans le sens d'un. Parce que quand vous dites l'abbé, ça veut dire pareil.
Un jour.
Ça veut dire Abba. C'est le mot hébreu Abba.
Hein? Ce qui fait que c'est assez curieux pour les chefs des monastères. Ils sont père, Abbé. Ils sont père et ils sont
père. Oui, c'est un peu une tautologie, oui.
Père-père.
Mais enfin, bon, enfin, c'est le son. Alors, c'est la même chose pour les ordres féminins. Vous avez la mère, je sais pas comment
c'est, la
mère supérieure chez les.
Oui,
qui a rang d'évêque, et pareil, c'est pareil, elle a rang d'évêque. Attention, c'est une grande bonne femme. Hein.
Je sais pas ça.
Si, elle est équivalente aux évêques. Oui, oui. Non, c'est dans ce sens. C'est un titre hiérarchique, quoi. Non, c'est un titre hiérarchique, tout simplement.
La mère est supérieure.
Ma mère. Je ne sais pas exactement. Non. Alors, pour ce qui est des cardinaux et autres, monsieur le cardinal, monsieur l'évêque, monsieur le cardinal, etc. Terminé. Monsieur le pape, si jamais l'occasion s'en présente.
Monsieur Wittimon.
Ou alors à ce moment-là, je crois que, par exemple, des pasteurs qui ont l'occasion de rencontrer le pape font un petit peu comme, vous savez, quelqu'un, par exemple, lui donneront de l'excellence, comme on fait par exemple pour un ambassadeur.
Ouais,
excellence. Je crois que le pasteur Maxime Chevalier, quand le pape est venu à Paris, lui a donné ce titre, si je me souviens bien. Excellence.
Pourquoi pour un évêque, il n'y a pas de problème, c'est le meilleur titre.
Oh ben non, je ne donnerai pas de l'excellence à un évêque.
D'accord.
Oh, monsieur l'évêque. Monsieur l'évêque, point. Ah oui. Bon, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? C'est le prêtre qui est responsable d'une paroisse. Vous pouvez avoir des prêtres qui ne sont pas responsables d'une paroisse. Alors, attention, le père abbé, le père abbé, c'est le chef d'un grand monastère, par exemple à Timadeuc ici, vous avez un père abbé, et qui a un rang d'évêque. C'est équivalent à l'évêque. Le monastère est considéré comme un diocèse ou comme un évêché. Il n'est pas soumis à la juridiction de l'évêque local. Par exemple, le père abbé qui est à Timadeuc, il n'a pas de compte à rendre à l'évêque de Vannes. Il n'a de compte à rendre qu'au pape. Oui, exactement comme l'évêque. Il a rendu évêque en tout point. Alors c'est pour ça que c'est un grand bonhomme, le père abbé d'un monastère. Maintenant, le prêtre de base, on va lui dire l'abbé un tel, mais ça n'a rien à voir avec le père abbé dans un monastère. Il ne faut pas confondre les deux choses. Vous comprenez ça? Tu comprends ça? Hein? Alors, le curé, il s'appelle l'abbé, l'abbé Dutron, l'abbé Durand, etc. Bon, ça veut dire tout simplement, c'est son titre. Alors, le prêtre, c'est quelqu'un qui a reçu l'ordre de la prêtrise. Le curé, c'est celui qui est en charge d'une paroisse. Tu peux avoir des prêtres qui ne sont pas curés, qui ne sont pas en charge d'une paroisse, qui sont détachés, moi je sais pas, moi...
Comme le mal, par exemple.
Comme le père le mal, oui, c'est ça, il est donc chancelier de l'évêché, ça c'est autre chose. Chancelier de l'évêché. Alors le chancelier, dans chaque évêché, vous avez un spécialiste du droit canon. C'est-à-dire, il y a un droit religieux dans l'Église catholique qu'on appelle le droit canon, qui régit tous les problèmes de juridiction et autres, puisque pendant un temps, vous savez que l'Église faisait fonction d'État civil, hein, jusqu'à la Révolution, en France en tout cas. Et donc, il y a des juristes dans l'Église. Et le chancelier, c'est un juriste qui est attaché, c'est un juriste donc en droit religieux, qui est attaché à chaque évêché et qui tranche les procès religieux qui peuvent avoir lieu. Par exemple, c'est souvent en matière de mariage. Par exemple, quelqu'un qui veut faire annuler son mariage, il y a un certain nombre de règles précises pour vous. Oui, c'est ça. Alors, en fait, si par exemple, il se trouve qui considère que son mariage est nul et non avenu, c'est le chancelier de l'évêché qui tranche en dernier ressort, qui dit ben, « vous avez été marié, vous n'avez pas été marié ».
Il y a un rôle juridique.
Si c'est tout de même une personnalité importante dans l'évêché quand même.
Ça sera important parce que c'est quand même lui qui est en relation au niveau ecclésiastique, des choses comme ça pour les...
Ah non, 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 pas obligatoire. Ah oui, parce que pour la question des mariages mixtes, il est amené à s'en occuper, mais il a pas à voir obligatoirement avec l'œcuménisme.
Non, c'est vraiment...
Non, mais tu auras par exemple des prêtres qui sont détachés dans l'action catholique, dans une sorte de mouvement catholique ou autre, et qui ne seront pas en charge d'une paroisse. Alors on ne les appellera pas curés, ceux-là. Ou alors tu en auras qui sont vicaires seulement.
Celui
qui
sont... Le vicaire, c'est celui qui remplace le
curé.
Le curé en quelle absence?
Voilà. Il est le second du curé. Comment? Le vicaire est un prêtre, oui. Oui, oui. C'est un prêtre obligatoire. Alors le recteur, c'est le nom du curé en Bretagne. Ça, c'est un terme breton uniquement. D'accord. Oui. C'est très local. Comment? Ça veut dire curé.
Curé,
tout simplement. Comment?
Monsieur le recteur.
Oui. Oui, on peut dire monsieur le recteur, bien sûr, oui. Ou monsieur le curé. Ailleurs, quoi, quand on les prend en Bretagne.
Oui.
Les jésuites
aussi ont une structure différente aussi, un peu comme les monastères. Enfin, pas comme les monastères, mais ils dépendent du pape.
Alors, à ça, ce sont les ordres. Les ordres, vous avez des ordres qui sont à la fois séculiers et des ordres qui sont réguliers. Alors, la différence entre le clergé séculier et le clergé régulier, le clergé séculier, c'est le clergé qui est dans le siècle, ça veut dire dans le monde. Le clergé régulier, c'est le clergé qui est soumis à des règles, c'est donc le clergé qui se trouve dans des monastères. Dans des monastères, vous avez les laïcs et les prêtres, c'est-à-dire que vous avez des religieux qui ne sont pas ordonnés prêtres, mais qui sont des religieux, et vous en avez d'autres qui sont religieux, qui sont prêtres. Hein? Par exemple, vous aurez le frère Dupont ou le frère Durand, c'est pas obligatoirement un prêtre, hein? C'est un moine. Alors, séculier le siècle, c'est-à-dire le monde, ceux qui sont dans le monde, et régulier, ceux qui sont soumis aux règles monastiques, c'est ceux qui sont dans les monastères. Bon, et vous avez, dans l'histoire de l'Église catholique, on le verra dans l'histoire de l'Église, vous avez plusieurs grandes réformes qui vont marquer l'Église catholique à certaines époques. Vous savez, par exemple, au Moyen-Âge, bien avant la réforme, il y a eu des mouvements de réforme intérieure de l'Église catholique. Vous avez, par exemple, entendu parler de Saint-François d'Assise, par exemple. Vous avez entendu parler de Bernard de Clairvaux. Vous avez entendu parler de la réforme cistercienne, toutes ces choses-là. Ce sont des réformes tunisiennes, etc., des réformes au sein de l'Église catholique, des gens qui se sont dit, qui ont fait une rencontre avec Dieu, et qui se sont dit, ça ne colle plus, il faut faire quelque chose. Alors, l'Église catholique, quand elle se trouvait en face de ces mouvements qui étaient très gênants pour elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les aiguillait dans le clergé régulier. Parce que, dans le fond, la notion d'un clergé régulier, c'est-à-dire des monastères, si vous voulez, dans l'Église catholique, c'est la constitution d'un peuple de Dieu d'un rang supérieur. Vous avez le peuple de Dieu, le vulgus pecus, qui est en majorité composé de chrétiens. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Aujourd'hui, c'est très à la mode dans les milieux catholiques, zut. La piété populaire, je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas encore tout à fait ce mot-là. Ça veut dire, si vous voulez, les... Non. La piété populaire, c'est-à-dire les gens qui sont pas très éclairés, qui sont catholiques comme ça, qui vont pour le baptême, pour l'enterrement, pour la confirmation et puis pour le mariage, etc., qui vont de temps en temps à la messe aux grandes occasions, qui au besoin vont être superstitieux, vont adorer Saint-Christophe qui n'a jamais existé, ou des histoires comme ça. Bon, alors, cela, on ne leur demande pas grand-chose aux catholiques. Le catholique de base, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de participer au sacrement, c'est tout, en fait. Hein? Le catholique, c'est celui qui participe au sacrement. Vous savez, la formule qu'on trouve sur les faire-part de décès, un tel est mort tel jour, n'est-ce pas, muni des sacrements de l'Église. Hein? Ça, c'est les... Bon, ben voilà, quand on a dit ça, on a tout dit. Muni des sacrements de l'Église, ben voilà, il est sauvé. Pourquoi? Parce que les sacrements, nous allons voir ça quand nous parlerons des sacrements, ce sont des actes, des gestes, qui ont une puissance, une vertu en eux-mêmes. Par exemple, le baptême, bon, l'enfant, bien sûr, est inconscient, mais quand on... Alors, nous, c'est notre grosse objection vis-à-vis des catholiques. On dit, oui, mais l'enfant, il est inconscient, il n'a pas de foi. Peu importe, parce que le sacrement agit en lui-même. Il n'y a pas besoin de la foi, il n'y a pas besoin de la participation de celui qui est au bénéfice du sacrement. Du moment que le sacrement est prononcé, il a une vertu en lui-même. Ça veut dire qu'en ce qui concerne l'enfant, par exemple, le nouveau-né, il enlève le péché originel dans lequel l'enfant naît. Parce que l'enfant, pour le catholique, quand il naît, il est pécheur. Et s'il meurt sans baptême, par exemple, il ne va pas en enfer parce que ce serait quand même un peu gros, mais il va dans un endroit particulier qu'on appelle les limbes. C'est-à-dire un endroit qui... Comment ? Oui. Quand on veut être dans les limbes, c'est une expression, ça veut dire qu'on est en rêve. Hein, mais c'est dans la théologie catholique, c'est quelque chose de bien précis. C'est un endroit où ils ne souffrent pas, ils ne sont pas heureux. C'est un endroit neutre, quoi. Alors c'est embêtant quand même, quoi. C'est pas l'idéal d'aller dans les limbes. Voilà. Non, il faut passer par le baptême obligatoirement.
Ceux qui sont dans les limbes n'ont pas de solution dans leur doctrine.
Ah non. Si on est dans les limbes, c'est définitif. Quoi. Oui, pour ne pas aller dans les limbes.
Ouais.
Alors, c'est comme ça, par exemple, que un laïc in articulo morte, un laïc dans un cas de force majeure, par exemple, s'ils voient un enfant qui, les infirmières, les médecins, etc., s'ils voient un enfant qui un nouveau-né qui ne va pas bien, etc., eh bien, ils peuvent le baptiser sur le champ, bien que n'étant pas prêtre. C'est le seul cas où un sacrement peut être accompli par quelqu'un qui n'est pas prêtre, hein, pour lui éviter ce sort funeste et tragique d'aller dans les limbes. Bon, si vous avez par exemple le sacrement de... Qu'est-ce que je vais prendre, moi Oui, ben, le sacrement de l'ordre, par exemple. On parlait tout à l'heure, tu es prêtre ad aeternam, hein, tu es prêtre pour l'éternité à la manière de Melchizedek. Bon, les prêtres qui défroquent, comme on dit, familièrement. Dans la théologie catholique, il reste prêtre, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai un oncle qui est pasteur baptiste, qui est un ancien prêtre. Eh bien, pour les catholiques, il est prêtre. Monsieur Willem, par exemple, à Carré, est prêtre pour les catholiques. Hein. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un sacrement qui opère, quelle que soit la foi, quel que soit l'état de celui qui reçoit le sacrement, peu importe. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une foi très éclairée pour être catholique. Bon, si on peut avoir une foi éclairée, tant mieux. Mais si on n'a pas une foi éclairée, si on est le catholique moyen, comme il y en a tant en France, n'est-ce pas, qui vient simplement pour les grandes occasions, etc. Peu importe, du moment qu'on participe au sacrement, vaut mieux quand même aller à une messe de temps en temps, parce que qu'est-ce que c'est la messe ? C'est la participation au sacrement. Vous savez que jusqu'à Vatican II, la messe était dite en latin. Ça veut dire que les trois quarts des gens ne comprenaient pas un traître mot de ce qu'ils disaient. Ça fait rien, dit l'Église catholique, parce que c'est pas l'important, c'est pas qu'ils comprennent. L'important, c'est qu'ils soient au bénéfice du sacrement. L'important, c'est qu'ils reçoivent le Seigneur en la personne de l'hostie, si j'ose dire. Hein, c'est le Seigneur qui vient en eux. Puis à ce moment-là, ils sont pardonnés de leurs péchés, etc. Bon, le problème de la confession auriculaire, qui ne se fait plus beaucoup maintenant dans l'Église catholique, mais je sais qu'en tant que protestant, c'était quelque chose qui nous faisait rigoler bien souvent. Il y avait des plaisanteries nombreuses qui couraient dans les milieux protestants, c'est la confession auriculaire. Mais il y avait un peu de vrai, c'était un peu caricatural, mais c'était un peu vrai quand même. Dans ce sens que, eh bien, on disait, ah bah oui, bah, les catholiques, c'est facile, hein, ils pêchent, et puis tranquillement, bon, ils vont se confesser, puis ils peuvent recommencer, puis revenir la semaine suivante, et puis être à nouveau pardonnés. Bon, évidemment, les catholiques auraient récusé cette manière caricaturale de voir les choses. Mais je dirais qu'au niveau de la pratique, c'était tout de même un peu ce qui se produisait, dans ce sens que, du moment qu'on avait confessé ses péchés au prêtre, eh bien, automatiquement, il y avait le pardon, même si on n'était pas décidé à se séparer du péché. Hein. On pouvait retourner pécher, puis effectivement revenir, parce que le sacrement, la pénitence est considérée comme un sacrement chez les catholiques. Hein. Le sacrement opère en lui-même. C'est en quelque sorte quelque chose de magique qui agit indépendamment de celui qui exerce le sacrement et celui qui le reçoit. Dans ce sens que le prêtre qui célèbre le sacrement peut être le dernier des débauchés. Il peut faire les 400 coups, vivre comme un patachon s'il veut. Peu importe, n'est-ce pas ? Le sacrement opère du moment qu'il a reçu l'ordination. S'il prononce les paroles sacramentelles et rituelles, s'il fait les gestes qui sont prévus par la liturgie, eh bien le sacrement va opérer. Si celui qui reçoit le sacrement est le dernier des mécréants, ne croit ni en Dieu ni en diable, peu importe si le sacrement est exercé sur lui, ça opère quand même. Alors c'est facile finalement d'être catholique, vous voyez, c'est facile. Si encore une fois on peut avoir une foi éclairée, tant mieux. Si on ne l'a pas, tant pis, on est le chrétien de base, le chrétien, la foi populaire, comme disent la piété populaire, on ne lui demande pas grand-chose, participer au sacrement. Bon, alors il est bien évident qu'un certain nombre de catholiques se sont dit, ça ne va pas, ils n'étaient pas satisfaits de cette foi-là. Et ça a été l'occasion des grands mouvements de réforme au Moyen-Âge. Par exemple, un François d'Assise, qui ont lancé des mouvements de réveil, disons, c'était des mouvements de réveil, avec l'Esprit de Dieu, avec toutes les caractéristiques des réveils à l'affiner, tout ça. Hein. Il y avait la repentance, il y avait la remise en ordre de la vie, il y avait l'onction du Saint-Esprit, il y avait les charismes, il y avait tout. Alors, qu'est-ce que faisait l'Église catholique ? Ils disaient, bon... Ah oui, il y a des charismes, ah oui, il y a du charisme, absolument. Absolument.
Ils ont voulu à nouveau parce que c'était...
Absolument. Et c'est ce qu'a permis d'ailleurs au mouvement charismatique catholique, maintenant, de trouver une officialisation, parce que, de tout temps, l'Église a eu des charismatiques. Hein. Seulement, qu'est-ce que...
Vannes est agatifique.
Comment ?
Vannes est agatifique, avec Saint-Sauveur.
Il est charismatique, celui-là ?
Oui.
Ah bon ?
Oui, il y a les deux.
Oui, bon, enfin, soit. Peu importe. Enfin, il y en a eu d'autres qui étaient certainement moins douteux que celui-là. Mais, alors, qu'est-ce que faisait l'Église catholique ? Eh bien, elle disait, voilà, vous êtes des chrétiens d'une qualité supérieure, si je peux dire. Comment ? Alors, ce que vous avez redécouvert, c'est bien, mais ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une élite. Et en tant qu'élite, eh bien, ne nous embêtez pas, allez donc dans un monastère là-bas, vous allez vivre ce que vous avez découvert entre vous, puis vous ne nous embêterez pas. Et c'est ça le monachisme catholique. C'est ça les ordres. Chaque fois qu'il y a un mouvement de réveil dans l'Église catholique, hop, il est canalisé vers un ordre, et là il est circonscrit. Et c'est ça qui donne naissance au monastère, essentiellement. Au début, les monastères n'étaient pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'était des centres de rayonnement. C'était des centres d'évangélisation. Par exemple, au 5e siècle, vous savez, la Bretagne a été évangélisée par les moines irlandais, avec Saint Patrick, etc., qui ont fondé des monastères, mais c'était des monastères d'où partaient des gens qui allaient évangéliser les campagnes païennes environnantes, et qui en même temps faisait un travail social assez formidable, qui apprenait aux gens à cultiver avec des méthodes plus modernes que ceux qu'ils avaient, etc., qui organisait, qui structurait les villages, etc., et qui ont fait à ce niveau-là un travail remarquable et vraiment évangélique, dans lequel il y avait encore une fois l'Esprit de Dieu. Mais c'était embêtant. Alors, de plus en plus, la pression de l'Église, la hiérarchie, a eu pour but de séparer donc l'Église du siècle, le clergé séculier et le clergé régulier, qu'il a enfermé, qu'il a réuni dans des monastères, sans contact avec le monde extérieur. Et donc, si vous voulez, vous avez un catholicisme à deux niveaux, pour les laïcs cette fois-ci, hein, je parle pas seulement pour les clercs, vous avez le catholicisme populaire, et puis vous avez le catholicisme d'une qualité supérieure, pour ceux qui, en quelque sorte, veulent aller plus loin, ça veut dire le monastère. Moins aujourd'hui, parce que ça a tendance à se séculariser, mais par exemple au Moyen-Âge, et puis jusqu'au 19e, même pendant tout le 19e, c'était une grande époque du monachisme catholique, le 19e, c'était ça, c'était la voie normale. Celui qui n'était pas satisfait de la piété populaire, celui qui voulait aller plus loin, eh bien, c'était le couvent, quoi, c'était le monastère. Et là, dans le monastère, vous avez une possibilité que vous n'avez pas dans le siècle, c'est celui de la sainteté. Hein, c'est l'idéal de la sainteté. Les saints, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des chrétiens d'une qualité supérieure, d'une élite. Dans ce sens que tous les chrétiens, bien sûr, ne sont pas appelés à la sainteté dans la théologie catholique. C'est simplement le fait d'une petite élite, hein. Et en général, c'est la voie de la sainteté passe par le monastère. Bien sûr, c'est pas automatique dans ce sens. Vous pouvez avoir des saints séculiers, Saint-Paul, mais par exemple les grands saints, Sainte Thérèse, etc., sont quand même des gens qui sont issus du monachisme, et le monachisme est la voie normale pour atteindre la sainteté. Par exemple, Luther, qui était un homme qui avait soif de sainteté, bien tout naturellement est entré au couvent. Ça, c'était le chemin, il n'y avait pas de problème. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins vrai, parce que ça a tendance à se séculariser, bien sûr, mais en fait, ça reste quand même. Et par exemple, tout le mouvement charismatique en milieu catholique tourne autour des monastères, ou des communautés religieuses, essentiellement. Et les communautés religieuses, eh bien, elles sont ce que sont les réveils en milieu protestant. C'est le parallèle. Vous voyez, l'action de l'esprit dans le protestantisme provoque souvent des cassures, des dénominations nouvelles. Dans le catholicisme, ça provoque des ordres nouveaux, des congrégations nouvelles. Et par exemple, tu parlais des jésuites, on a parlé de ça en parlant des jésuites, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Hein? Alors, vous avez, bon, ben, le mouvement de réveil de Saint-François, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne les franciscains. Hein? Vous avez les mouvements de réforme de Cluny, Citeaux, etc., dans le bas Moyen-Âge, à l'époque du bas Moyen-Âge. Bon, ça vous donne les ordres cisterciens, trappistes, etc., dont Imadeuc, qui est en Bretagne le représentant le plus illustre. Vous avez, qu'est-ce que vous pouvez encore avoir? Vous avez à une époque plus récente, bon, vous avez les, effectivement, au moment où il a fallu combattre alors l'hérésie, les papes ont institué eux-mêmes parfois des ordres. C'est pas quelquefois quelque chose de l'esprit, c'est quelque chose que les papes forment dans un but précis. Par exemple, au moment de la contre-réforme, pour combattre le protestantisme, et les hérésies d'ailleurs savaient comment ça va le protestantisme, c'était en fait au moment de l'affaire des Cathares. On aura l'occasion d'y revenir dans le sud de la France, dans le Languedoc, Roussillon, tout ça. Ils ont créé l'ordre des Dominicains, qui étaient des gens qui intellectuellement étaient formés pour pouvoir combattre les hérésies. C'était au départ des moines prêcheurs, envoyés par le Saint-Siège pour justement combattre les hérésies par la parole. Et s'ils n'arrivaient pas à le faire, par le fer, par le glaive. Et ça a été au sein des dominicains que sont sortis les inquisiteurs. Par exemple, l'inquisition était une institution dominicaine. Vous avez, au moment des croisades, un certain nombre d'ordres qui ont été créés aussi pour répondre à des besoins précis. Par exemple, l'ordre de l'hôpital, les chevaliers de Saint-Jean d'Hôpital, les hospitaliers qui existent encore, c'était des moines, comme le dit l'hospitalier, qui avait pour but d'accueillir les pèlerins qui visitaient la Terre Sainte et au besoin de les défendre. C'était donc aussi des moines soldats. Puis ensuite, les papes ont créé un second ordre en Terre Sainte pour les mêmes raisons, les Templiers, qui eux étaient vraiment des moines soldats. Alors ils prêtaient faisaient les vœux. Alors j'ai oublié de dire ça tout à l'heure aussi, que pour pouvoir devenir prêtre ou religieux, n'est-ce pas ? Attention, le religieux, encore une fois, n'est pas obligatoirement un prêtre. Le religieux, c'est quelqu'un qui est dans un monastère, hein, qui peut être un simple laïc, mais il a prononcé les vœux qui sont indispensables aussi pour être prêtre, les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Hein, ce sont les vœux indispensables pour pouvoir participer à un ministère dans l'Église catholique. Et bon, ces gens-là, donc, faisaient les vœux, les trois vœux monastiques. Mais c'était des soldats, c'était des gens qui passaient leur temps à pourchasser les infidèles, à les trucider allègrement au nom du Seigneur, mais c'était des moines, en fait. Bon, les jésuites, ce sont des gens qui ont été fondés par un certain Ignace de Loyola, qui était un mystique catholique espagnol, qui peut-être était... Enfin, qui avait certainement une dimension spirituelle, il avait sans doute une rencontre avec Dieu aussi, et alors qui lui insistait beaucoup sur le vœu de l'obéissance. Le thème du jésuitisme, c'était d'obéir comme un cadavre, d'être aussi docile entre les mains du pape qu'un cadavre, c'était d'être les troupes de choc du pape, en quelque sorte. Mais c'était à partir de monastères, puis ensuite ils ont éclaté dans différentes... Alors c'est plutôt des écoles de pensée aujourd'hui, dans ce sens que par exemple un jeune séminariste qui se destine à la prêtrise, va opter pour un ordre. Hein? Alors, ceux qui sont attirés par les études intellectuelles vont choisir l'ordre des dominicains. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer dans un monastère, obligatoirement, mais ils vont recevoir la formation, le style de pensée de l'ordre en question. Ceux qui sont attirés par l'obéissance, etc., vont choisir les jésuites pour tout ce qui est enseignement, etc. Ceux qui se destinent à l'enseignement, tout ça, les jésuites sont des enseignants essentiellement, etc., etc. Il y a différentes possibilités. Bon, les franciscains, ceux qui sont attirés par l'idéal de pauvreté, enfin bref, il y a tout un éventail qui s'ouvre devant le candidat à la prêtrise, qui lui permet de choisir ce qui correspond le mieux, si j'ose dire, à sa sensibilité, mais qui retourne tous à la même source, c'est-à-dire cette nécessité d'obéissance absolue à l'Église. Hein, l'Église ou pas. Alors, pendant les 2 minutes qui nous restent, on pourrait dire 2 mots justement d'une critique peut-être évangélique de cette structure. Alors, je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on se rend compte très vite que même s'il y a une base lointaine qui se réfère au Nouveau Testament, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'apostolat, les anciens et puis les diacres, en fait, ce que c'est devenu aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la vision néo-testamentaire des choses, notamment la dimension charismatique, puisque là, tout est hiérarchisé, tout est systématisé. Nous sommes dans un système qui est humain, et nous aurons l'occasion de le voir la prochaine fois que nous parlerons de l'institution papale, que l'institution papale est en fait la réplique religieuse de l'institution, le pendant religieux de l'empereur, avait pouvoir absolu dans l'Église, hein, qui était devenue une institution d'État à l'époque de Constantin. Alors, nous sommes ici dans un système qui est absolument humain, dans lequel il n'y a plus du tout le souffle de l'esprit, et puis qui ne correspond plus du tout au modèle du Nouveau Testament. En ce qui concerne la notion de prêtrise, ça je crois qu'on l'a vu tout à l'heure avec l'Épître aux Hébreux, le Christ est le seul prêtre, et les prêtres éternellement, son sacrifice est unique, il n'est pas renouvelable. La Sainte Cène ou l'Eucharistie, comme vous voulez l'appeler, n'est pas la reproduction du sacrifice du Christ, mais le souvenir du sacrifice du Christ. Faites ceci en souvenir de moi, dit Jésus. Qu'on dise que ça actualise, ça rend présent le sacrifice du Christ, de la même manière que nous souvenir de ce qui s'est passé il y a 10 ans rend présent dans notre esprit l'événement qui s'est produit il y a 10 ans, mais on ne le revit pas. On le revit en souvenir. Mais une chose est de le revivre en souvenir, une chose est de le revivre en réalité. C'est pas ? Et la Bible insiste sur cette notion du mémorial. Faites ceci en souvenir, en mémorial de moi. Alors, bon, je crois qu'il faut insister très fort là-dessus. Par conséquent, il n'est pas utile qu'il y ait un prêtre pour célébrer l'Eucharistie. L'Église n'est pas la hiérarchie. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur. Le ministère et le ministre n'est pas quelqu'un qui est au-dessus, qui est mis à part d'une manière particulière. Il est mis à part par l'action du Saint-Esprit, mais il est un chrétien comme les autres, d'abord avant d'être un ministre de l'Évangile, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de distinction entre prêtre et laïc. Il n'y a pas de distinction entre chrétiens d'élite, les saints, et puis ceux qui pourraient l'être un petit peu moins. Quand j'étais à Saint-Paul l'autre jour, j'ai un peu souri, parce qu'il y a un des élèves qui était là, c'est un garçon, il me dit, on dit que les protestants sont des gens austères. Alors est-ce que vous êtes quelqu'un d'austère, qui me dit, ou bien est-ce que vous êtes comme les catholiques, vous savez. Alors je n'avais pas très bien compris, je dis, qu'est-ce que vous voulez dire austère, justement. Alors, il me dit, vous savez, comme les catholiques, quoi. Il y a ce qu'il faut faire, et puis en fait, on en prend à son aise, quoi. On fait un petit peu ce qu'on veut. Alors, je lui dis, écoute, dans ce sens-là, si tu interprètes le mot austérité dans ce sens-là, je te réponds que je suis austère, parce que pour nous, on pense que, ou bien alors, ce que Dieu dit, eh bien, il le dit. Et par conséquent, avec nos faiblesses, avec nos limites, avec bien des imperfections, on s'efforce de le vivre, mais on essaie de le vivre, de le prendre au sérieux, ou bien c'est pas la peine, il faut aller faire autre chose. Avez-vous cette conception, dans le catholicisme, que dans le fond, du moment qu'on participe au sacrement, bon, il y a l'idéal, bien sûr, si on peut être saint, tant mieux, mais après tout, on peut en prendre à son aise. C'est un petit peu l'idée. Alors ça, c'est très grave. C'est très grave parce que c'est une idée qui n'est pas biblique, cette possibilité qu'il puisse y avoir une élite parmi les chrétiens. Bon, bien sûr, on sait bien que dans la réalité, on n'est pas au même niveau. Il y a des gens qui font plus de progrès spirituel que d'autres, mais chaque chrétien, et ça c'est la notion biblique, reçoit la même vocation de sainteté. Il y répondra plus ou moins parfaitement. Il ira plus ou moins loin selon sa réponse et sa liberté. Mais il reçoit la même vocation de sainteté.